Bonjour et bienvenue à votre émission Au rythme de l'Église. Je m'appelle Mario Ringuette et je serai l'animateur aujourd'hui. Lundi matin, Monseigneur, on s'est réveillé avec la mauvaise nouvelle que le pape François était décédé. Donc, depuis une semaine maintenant qu'on le sait, ça a été une grande nouvelle, je crois, pour l'Église du monde entier.
D'une façon, on pouvait un peu le pressentir. C'est quand même bien que la veille, il soit apparu au balcon. Bon, là, on a senti sa voix très faible, qui nous a quand même souhaité de joyeuses Pâques. Et on l'a vu quand même circuler une dizaine de minutes dans la Papa Mobile parmi tous les pèlerins qui étaient là sur la place Saint-Pierre. Donc, c'était moins de 24 heures avant sa mort. Alors, c'est comme son dernier au revoir. Je ne sais pas si lui le sentait. Nous, on espérait toujours qu'il prenne du mieux. Mais bon, écoute, en se levant ce matin, première chose, sur la télévision, le pape est mort. Alors, il a fallu s'ajuster à cette nouvelle-là.
Voilà. Donc, on le rappelle, on est avec Monseigneur Champagne, qui est notre évêque. Et puis, on apprenait lundi le décès du pape, qui est âgé de 88 ans.
Exact.
Il a quand même donné 12 années comme pontife.
Oui, de fait, c'est en 2003, au mois de mars, qu'il a été élu évêque de Rome. Et donc, il a donné 12 bonnes années. Si tu regardes toutes ces années, tout le travail qui a été accompli par lui et ses collaborateurs, il n'a pas fait ça tout seul, mais il y a des gens avec lui, il avait choisi. Et écoute, il y a eu énormément de travail de fait depuis son arrivée comme évêque de Rome.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça serait son plus grand legs ou sa plus grande œuvre qu'il a accomplie?
Écoute, il n'y en a pas rien qu'un, mais
plusieurs,
je dirais toute la démarche synodale qui a remarqué les dernières années. Ben, c'est une nouvelle façon de vivre en Église, de vivre nos relations en Église, où tous les membres de l'Église, on reconnaît leur dignité baptismale, où on est prêt à apprendre les uns des autres parce que l'Esprit est présent dans le cœur de chacun. Et je dirais que le pape Paul VI avait dit « Je veux une église en dialogue ». Le pape François, c'est comme s'il disait « Je veux une église à l'écoute ». Alors, cette réalité de l'écoute, c'est comme central. Et puis surtout, écouter ceux qu'on n'écoute pas d'habitude. Les petits, les gens qui sont marginalisés, les pauvres. Alors, les gens que notre société renvoie un peu, le pape aimait dire, aux périphéries.
Ouais.
Alors, je pense que ça, c'est des choses que le pape va nous laisser, de même que son rappel que Dieu est miséricorde. Ça, dès le début, ça l'a marqué, le début de son ministère.
Parce que lui-même, quand il était plus jeune, même quand il était évêque de Buenos Aires, en Argentine, même lui travaillait avec les plus pauvres.
Bien, il a été souvent, il a donné priorité dans son diocèse aux gens des favelas, des bidonvilles.
Oui.
Alors, il prenait le métro, l'autobus, puis il se rendait dans les quartiers pauvres, et c'est là qu'il célébrait régulièrement. Donc, cette option-là, il la vivait déjà profondément.
Parce que le pape, c'était un évêque, c'était un membre de communauté religieuse.
C'était le premier jésuite à jamais... Il n'y a jamais eu un jésuite pape.
Okay.
Il y a eu des franciscains, il y a eu des dominicains. Un jésuite, c'est la toute première fois.
OK. Puis dans ses premiers mots qu'il disait, on est allé le chercher loin.
Bien, c'est la première fois qu'on va chercher quelqu'un en dehors de l'Occident chrétien. T'sais, en général, les papes des derniers siècles venaient d'Europe, principalement d'Italie. Quand le pape Jean-Paul II est arrivé, il y avait déjà un bon moment qu'il y avait eu un nom italien. Alors, pour des siècles, c'était des Italiens.
Et puis, je lisais aussi dans le courant de la semaine qu'il a fait quelque chose de spécial encore plus, c'est qu'il a demandé d'être inhumé et non pas à la basilique Saint-Pierre de Rome, mais à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome.
Qui est la première église dédiée à la Vierge Marie. Une fois qu'on a dit, oui, on peut parler de Marie comme de la Mère de Dieu, qui a donné naissance à Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et le pape François avait une dévotion particulière à la Vierge, ce qui fait que lorsqu'il partait en grand voyage, il allait d'abord prier la Vierge, confier son voyage à cette basilique. Quand il revenait, il s'arrêtait à nouveau à Sainte-Marie-Majeure pour remercier de ce qui s'était passé durant son voyage. Donc, et il a exprimé le désir d'y être inhumé. Il semble qu'il a choisi sa place à l'intérieur de la basilique.
Oui, en 2024, que je lisais. Et puis, c'est le premier pape qui va être inhumé là depuis 3 siècles, depuis 1669 qu'il n'y en a pas eu d'inhumé.
Là, tu es plus informé que moi. Je te félicite pour cette information.
Oui, donc, puis ça va être le 7e pape qui va être là.
Ça, je pense ça.
Et puis, on parlait de l'aigle tout à l'heure. Si on allait un petit peu plus loin, on a parlé du synode. Puis le synode, c'est un petit peu la suite de Vatican II.
Bien, c'est comme si Vatican II, qui est arrivé quand même il y a une 60aine d'années, on a amorcé Vatican II. On n'a pas vécu encore à fond toutes les intuitions de Vatican II. Et là, le pape François est devenu prêtre après Vatican II. Donc, même sa formation théologique, là, c'est à la toute fin de Vatican II. Je pense qu'on lui a transmis des choses importantes. Et peut-être que lui, sur le terrain, il voyait, écoute, il y a encore des choses à faire. Le Concile de Trente, il y a déjà 450 ans, ça a pris 100 ans avant qu'on puisse dire qu'il est vraiment mis en pratique complètement partout. Alors, Vatican II, on a fait déjà des choses importantes, mais je dirais que le pape François, avec cette démarche synodale, il va encore plus loin dans la logique de Vatican II.
Parce que même vous disiez, avec le synode qu'on vient de vivre, ça ne s'arrête pas en 2025, 2024. C'est pour le relancer pour 15, 20, 30 ans. Là.
Ben, écoute, on voudrait que le troisième millénaire soit caractérisé par cette redécouverte de la synodalité. On savait que c'était bien au-delà de François et bien au-delà de tous nous autres, mais que ça devait être... C'était la façon de vivre de l'Église du premier millénaire. Pour toutes sortes de raisons historiques, au second millénaire, on s'est éloigné un peu de ce modèle-là. Et là, c'est d'y retourner à partir des institutions du Concile Vatican II.
Vous me disiez cette semaine que au mois d'octobre l'année passée, le pape avait fait une biographie.
Une autobiographie, c'est-à-dire que ça faisait déjà quelques années qu'avec un journaliste italien, il travaillait à une autobiographie.
Et ça, vous l'avez lu, je crois.
Oui, parce que finalement, c'est un peu. Au début, c'était pour après sa mort. Et puis, il a changé d'idée. Alors, on a su assez rapidement, dans les derniers mois, que la version anglaise, déjà accessible, j'ai compris que la version française devenait accessible à la fin du mois de mars. Je ne sais pas si c'est sur notre marché à nous, mais c'était déjà accessible en France. Moi, j'ai eu une copie en anglais que j'ai complétée la semaine avant sa mort. Très intéressant. Je me dis, ce pape-là a une mémoire des personnes qu'il a côtoyées dans son enfance, dans sa jeunesse. Et ce qui me frappe aussi, même s'il était pape, il a gardé contact avec une foule de gens avec qui il a cheminé en Argentine. Il a gardé des contacts par téléphone, il a contacté beaucoup de gens. Et ça, ça m'a frappé, c'est remarquable.
C'est déjà presque tout, Monseigneur. Quelle va être la suite des choses à partir de maintenant?
Bon, les funérailles, mais après ça, peut-être faire le point sur la vie de l'Église. Et normalement, les cardinaux qui n'auront pas atteint 80 ans le jour de l'ouverture du conclave, seront donc invités à se retirer à la chapelle Sixtine, puis ont des appartements à Santa Marta, je crois. Et ça sera le conclave. Si vous avez vu le film, qui est un peu... Bon, il y a des choses là-dedans que j'ai l'impression que je ne peux pas imaginer
c'est
que
romantique.
Ça se passerait aujourd'hui. Il y a de la fiction. Mais c'est sûr que tous les cardinaux se sentent responsables de l'avenir de l'Église et devront discerner parmi tous les gens qui peuvent être des candidats potentiels, celui qui pourrait assurer la suite. Alors, c'est un grand défi. Je pense qu'il faut ça vaut la peine de prier pour que tous ceux qui sont impliqués voient clair et élisent la personne que l'Église a besoin dans ce monde d'aujourd'hui puis pour la mission qu'elle a en nous.
Puis on espère que ce sera dans la continuité de François.
Moi, je vous dirais, ça ne peut pas être un clone de François.
Non.
Mais je peux espérer que celui qui sera élu accueillera avec beaucoup de respect l'héritage du pape François et va le pousser plus loin.
Parce que la majorité des cardinaux, je pense qu'ils ont été nommés par François maintenant.
C'est vrai, mais en même temps, oui, le pape François a pris souvent des cardinaux qui venaient de milieux où on n'y pensait pas à avoir un cardinal.
Okay.
Donc, beaucoup d'endroits, c'est le premier cardinal de Birmanie, c'est le premier cardinal d'Haïti. Bon, est-ce que ça veut dire que tous ces gens-là pensaient comme le pape François?
Pas nécessairement.
En tout cas, ce qu'ils avaient en commun, c'est un engagement auprès des petits et des pauvres.
OK. Bien, je vous remercie beaucoup, Monseigneur.
Bienvenue, Mario.
Puis on souhaite aux gens quand même un bon octave de Pâques. On est encore dans l'octave de Pâques.
On est en train de la compléter ce soir, oui.
Donc, on leur souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.
Merci.